RCF. Bonjour à toutes et à tous. Elle est née là où la terre rencontre le ciel, dans ces contrées où les champs s'étendent à perte de vue, où le vent porte encore le parfum des saisons. Christiane, qui s'appelle encore Fouillée avant de prendre celui de Lambert, est une fille du sol de la Loire qui a appris dès son plus jeune âge à lire dans le livre ouvert de la nature, à comprendre ses murmures et ses fureurs. Élevée dans l'Allier, elle troque les poupées pour les porcs, non pas par jeu mais par vocation, car même enfant, elle sait que son destin est lié à celui de la terre. Des années plus tard, armée de cette même détermination, elle quitte ses terres pour affronter les arènes où les hommes parlent de quotas et de subventions, de packs et de marchés. À Paris, dans les hautes sphères de la FNSEA, elle apporte la voix des chants et devient en 2017 la première femme à prendre la tête de ce syndicat. Sa couronne est invisible, mais rapidement les agriculteurs de France la reconnaissent comme leur souveraine. Elle se dresse dans les salons où les lustres éclairent mieux que le soleil mais n'échauffent pas les cœurs. Comme lui, les hommes en habits de velours écoutent cette femme en blouse de travail parler de récolte et de crise, de grippe aviaire et de bien-être animal. Christiane ne fléchit pas sous leur regard parfois moqueur car elle sait que son combat est juste. Son esprit est aussi fertile que la terre qu'elle défend, comprend que l'avenir est un enfant qui naît des actions du présent. Elle négocie avec l'Europe, parle aux écologistes, s'assoit à la table des décideurs, non pour soumettre mais pour convaincre. Elle veut une agriculture respectueuse, durable, une alliance entre tradition et innovation, entre le soc et la charrue et la précision des satellites. Dans sa vie, peu de place pour le repos. Les dimanches, quand d'autres se reposent, elle parcourt encore les allées de ses fermes ou celles des foires agricoles, saluant d'un signe de tête les fermiers, les éleveurs, les vignerons, tous ceux qui, comme elle, sont des enfants de la terre. Ainsi va Christiane, héroïne moderne d'une épopée ancestrale, forgeant dans le métal dur de la réalité quotidienne une légende qui peut-être inspirera ceux qui, demain, tiendront la charrue à son tour. Elle est à la fois passé, présent et avenir de son peuple agricole, un lien vivant entre ce qui a été et ce qui sera. Bonjour Christiane Lambert.
Bonjour.
Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission de l'écho des solutions, et vous l'aurez compris grâce à cet édito, nous sommes dans un nouvel épisode de nos visages d'entrepreneurs, ces hommes et ces femmes inspirantes dont nous aimons vous faire partager leur parcours mais aussi leurs aspirations et leur engagement. Et aujourd'hui, quelques jours après mon anniversaire mais surtout après la fête de l'Europe, eh bien j'ai le plaisir de recevoir Christiane Lambert. Christiane Lambert qui a été présidente de la FNSEA, qui est aujourd'hui présidente du COPA, le comité des organisations professionnelles et agricoles. Peut-être moins connue que la précédente, mais tout aussi importante, hein, puisque Christiane Lambert, désormais, vous présidez cette association des agriculteurs européens et vous baladez entre vos terres agricoles en Anjou, Paris et Bruxelles pour défendre le plus vieux métier du monde, celui de cultiver la terre et d'élever des bêtes pour nourrir tout un chacun. Et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Dans cette émission, on parlera donc agriculture européenne, ce sera le tout début de nos échanges dans l'invité éco, et puis on parlera de votre parcours et on terminera avec celle ou celui qui, selon vous, change le monde. Ce sera notre invité, votre invité des 7 minutes pour changer le monde. Puis bien sûr, Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Alors Christiane Lambert, avant d'enregistrer, j'ai fait un premier jet de ce portrait que vous trouvez, je pense, assez élogieux. Vous allez me dire s'il est juste ou pas. Ce portrait est fait à partir de l'intelligence artificielle. J'ai tapé « Fais-moi le portrait » à la manière des caractères de la Bruyère de Christiane Lambert. Qu'est-ce que vous en pensez de ce portrait? Alors, vous n'avez pas été élevé dans l'Allier, comme c'était dit, mais dans le Cantal, hein, c'est ouais. Ça? Rapprochez-vous bien du micro.
Né dans le Cantal. Élevé dans le Cantal, mais la Loire un peu quand même, parce que l'Alagnon, qui est la rivière qui passe à Massiac, se jette dans l'Allier, puis dans la Loire, et rejoint ensuite l'Atlantique. C'est un petit peu le parcours que j'ai fait, parce que j'ai quitté le Cantal pour suivre Thierry, mon mari. Alors vous m'étonnez quand vous dites que c'est l'intelligence artificielle, mais je suis impressionnée, et c'est pas la première fois, par ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. J'avais moi-même un jour en réunion testé. C'est d'une précision assez incroyable, et selon la commande que l'on passe avec un
prompt,
un degré de précision, ça produit des choses impressionnantes. Moi, je suis très attachée à la modernité. J'ai pas mal d'applications sur mon smartphone. J'utilise beaucoup le dictaphone. Ça va beaucoup plus vite que de taper des SMS. Et tout ce qui simplifie la vie et qui nous aide dans la vie quotidienne ou dans notre travail, bienvenue.
On verra peut-être d'ailleurs en quoi aujourd'hui l'intelligence artificielle, la data, l'agritech, hein, on en parle beaucoup, on en parle de temps en temps dans l'écho des solutions, devient une partie prenante aujourd'hui du métier d'agriculteur. Alors je pose toujours cette première question à mes invités, Christiane Lambert. On est ici donc dans votre bureau à la FNSEA, dans un bureau somme toute assez, je vais pas dire modeste, mais assez impersonnel. C'est votre bureau de passage, c'est votre bureau de travail ?
C'est mon bureau de passage, puisque je suis maintenant plus souvent à Bruxelles qu'à Paris. Donc c'est un peu un pied-à-terre pour avoir tous mes dossiers, et Dieu sait si j'y tiens, mais pour pouvoir aussi travailler. C'est essentiellement du travail. Vous savez, moi, j'ai la réputation d'être très exigeante et de travailler tout le temps. En 20 ans à Paris, je ne suis pas allée une seule fois au cinéma ni au théâtre, c'est vous dire. J'ai passé beaucoup de soirées à travailler. Mais c'est important de pouvoir se poser et puis préparer les dossiers. Mmh. Par contre, à Bruxelles, je n'ai pas de bureau parce que je suis de passage aussi. Le bureau, c'est celui du secrétaire général que je squatte de temps en temps.
Alors, on va évoquer avec vous votre parcours, l'actualité agricole aussi, hein, parce qu'il y a de l'actualité. On est aussi à quelques semaines des élections européennes et on sait combien elles sont souvent boudées par les électeurs. Donc, on va essayer de leur exprimer pourquoi pour le monde de l'agriculture sont des élections importantes. Ma première question, c'est dans quel état d'esprit êtes-vous au début de cette émission, Christiane Lambert ?
Enthousiaste en vous écoutant, surprise, et puis j'ai beaucoup envie de témoigner que l'engagement peut être positif, porteur, enrichissant, parce qu'on apprend beaucoup de choses, on rencontre des gens qu'on ne pensait pas rencontrer, et de chaque expérience, il y a quelque chose à retenir. Et puis, les solutions trouvées par les uns peuvent être les solutions des autres, et j'ai vu grandir des responsables, même des agriculteurs qui venaient en réunion et qui finalement repartaient le sourire aux lèvres en se disant finalement il y a une vision, finalement il y a des choses à faire, finalement ce métier il vaut le coup d'être vécu. Et c'est un petit peu le rôle du leader que de... J'ai un ami qui disait quand on est responsable professionnel, on n'a pas le droit d'être porteur de mauvaises nouvelles. Mmh. Quand on va à des réunions et qu'on éclaire l'horizon, c'est notre rôle de responsable professionnel. Et puis sur les grands enjeux comme par exemple la politique agricole, les élections européennes, la loi d'orientation, on a une capacité de proposition pour changer les choses. Et moi je suis engagée sur la base de mes convictions personnelles, professionnelles, et qui ont été le carburant de mon engagement dans la durée.
Et on en parlera dans la deuxième partie de cette émission quand on évoquera justement votre parcours, parce que vous avez été engagé très très jeune, hein, dès l'âge de 20 ans. Vous prenez vos premiers engagements syndicaux aux jeunes agriculteurs, au JA, comme on dit. Dans ce bureau qui est impersonnel et qui est un bureau de passage, je pose aussi toujours la même question à mes invités. Quelle est la photo qui n'a jamais été prise, qui pourrait ne jamais être prise, que vous aimeriez avoir, celle qui aurait pu avoir cette place sur votre bureau, mais elle n'existe pas? Ce serait quoi? Comment me la décririez-vous?
Ah, ça serait le sourire des agriculteurs que je rencontre quand ils viennent autour de moi à la fin d'une réunion et qu'ils aiment échanger en disant « mais finalement, tu parles comme nous ». Quand ils disent « on est content que tu portes notre voix, tu nous défends bien ». Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, « tu nous défends bien à la télé ». Donc, c'est plutôt des articles ou des témoignages d'agriculteurs. Il y a quand même la photo de ma famille, la photo de ma maison, de notre exploitation, qui sont un petit peu mon point d'appui aussi. J'y pense très, très, très souvent, et croiser le regard de mes enfants et mon mari sur le bureau,
ça vous fait du bien.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien. Je vous propose qu'on commence cette première séquence. Vous êtes l'invité écho de cette semaine. On va évoquer justement les sujets, hein, de l'agriculture en France et en Europe, particulièrement à l'approche des élections européennes qui vont voir renouveler le Parlement européen, ainsi que les différentes instances qui le composent.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Christiane Lambert, on l'a vu, j'étais présent sur le salon de l'agriculture. C'est là que je vous ai proposé de participer à cette émission de l'écho des solutions dans nos visages d'entrepreneurs. Un salon de l'agriculture assez particulier cette année parce qu'il était sur fond de crise agricole, forte crise agricole. On a vu, j'ai presque envie de dire, j'ai cru voir pour la première fois tout le monde agricole en colère et pas simplement une petite partie. Il y avait une forme d'unité de la protestation. Quel est votre regard, vous, sur cette crise agricole? C'était une révolte sous-jacente depuis longtemps déjà?
Oui, il y a un mal-être chez les agriculteurs depuis quelque temps. Il est autant moral, psychologique qu'économique. Mmh. Économique pour certains qui ont du mal en raison de la sécheresse, des prix dans certains secteurs d'activité, pas tous. Il y a des secteurs qui vont mieux et tant mieux. Mais par contre, c'est un sentiment de déclassement, le sentiment d'être une profession à qui beaucoup de gens donnent des ordres ou des injonctions. Soyez comme ci, faites ça, moins de pesticides, plus de bien-être. Écoutez-nous, restez à la campagne, faut manger moins de viande, mais gardez les prairies. Enfin, un sentiment d'incompréhension entre des injonctions descendantes, régulièrement répétées parfois avec violence. Rappelez-vous des intrusions dans les élevages, des attaques contre les réserves d'eau, des débats polémiques tout le temps à propos de l'agriculture, alors que les agriculteurs travaillent tous les jours, samedi, dimanche et jour de fête quand on est éleveur, et ne comprennent plus qu'est-ce qui est attendu d'eux. Mmh. On leur dit faites tout ci, faites tout ça, mais en même temps, les frontières sont ouvertes à des produits qui viennent d'ailleurs et qui ne respectent absolument pas les mêmes règles. Et il y a un sentiment d'être pris dans une souricière, une espèce de piège dont on ne voit pas l'issue.
Mmh. Et on a le sentiment aussi qu'il y a même une fracture dans le monde agricole entre les agriculteurs, entre même s'ils aiment la terre de la même manière, on a le sentiment qu'on les oppose. Je ne vais pas dire que la fracture, ce sont eux qui la creusent, mais qu'on oppose la bonne agriculture, du bio, de l'agroécologie, de l'agroforesterie à une agriculture plus intensive, et mettons les mots sur cette agriculture, elle existe, mais en même temps, il faut aussi pouvoir nourrir celles et ceux qui, et nos concitoyens qui vivent en France. Il y a aussi cette opposition entre ces deux agricultures qui existent.
Vous le dites très bien et vous le précisez avec discernement et j'apprécie. Il y a trop dans les médias qui vont vite de dualité. C'est bien, c'est mal, les gentils, les méchants. Et beaucoup de médias qui vont vite, beaucoup d'élus politiques, d'associations, classent les agriculteurs entre ceux qui font bien et ceux qui font mal. Et ça, c'est insupportable parce que nous n'avons pas ce clivage-là toujours vécu entre agriculteurs. Il y a ici, à la FNSEA, des agriculteurs bio qui respectent pleinement les agriculteurs conventionnels et qui ne sont pas dans la critique. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses très difficiles. Vous savez, quand un agriculteur arrive le matin dans son tracteur, qu'il allume la radio et qu'il entend toutes les critiques qui peuvent être faites sur le glyphosate, les pesticides, l'air, l'eau, etc. Quand il arrive dans sa salle de traite et qu'on lui parle de maltraitance, que la Cour des comptes dit moins de vaches, que Bruno Le Maire dit il va falloir diminuer. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme envie de travailler? C'est terrible. Et il y a un risque, sentiment de déclassement, de colère. Et la colère est mauvaise conseillère, parce que quand on est chef d'entreprise et qu'il y a des difficultés, il vaut mieux les aborder avec enthousiasme. Et quand on entend tout ça, c'est démoralisant. Et ça génère de la violence dans les propos et aussi de la violence dans les expressions. Et cette révolte, Europe entière, elle est aussi l'illustration que ce n'est pas que la France.
Alors c'est la question que j'allais vous poser ensuite. Comment va l'Europe agricole? Parce qu'on a vu à un moment donné les Espagnols commencer aussi à bouger. Et Dieu sait si parfois il y a de la confrontation à la frontière entre les agriculteurs français et les agriculteurs espagnols, justement parce qu'il n'y a pas forcément cette unification aussi tarifaire et réglementaire entre tous les États. Comment se porte finalement l'Europe agricole, vous qui la défendez à Bruxelles?
Il y a eu des manifestations dans 25 pays sur 27. C'est dire qu'il n'y a que deux pays du Nord qui n'ont pas manifesté. Il y a des raisons nationales, mais il y a un fil rouge européen qui est ce sentiment de déclassement, ce sentiment de ne pas être écouté, reconnu, d'avoir des injonctions toujours plus haut, toujours plus fort, etc. vis-à-vis du climat, vis-à-vis des prix qui doivent être toujours plus bas. Vous devez faire mieux, mais vous serez payé moins cher, parce que le consommateur ne peut pas payer plus cher. Chacun le sait, produire plus vert, c'est produire plus cher. Ça a un coût. Qui va payer? Le consommateur dit « je ne veux pas, je ne peux pas ». Les politiques publiques baissent les budgets et les agriculteurs se retrouvent avec une charge mentale et économique sur les épaules qui devient insupportable. Et puis, il y a eu la nouvelle politique agricole commune qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023, qui était très complexe, tellement complexe que les administrations n'ont pas réussi à contrôler les agriculteurs et à payer les aides dans les temps. Et puis, il y a la perspective du Green Deal, le pacte vert avec sa déclinaison agricole Farm to Fork, de la fourche à la fourchette, qui amène 27 nouveaux textes réglementaires que les agriculteurs devraient respecter. Imaginez-vous, c'est un tsunami réglementaire qui nous met en vraie difficulté par rapport à d'autres pays du monde entier qui, eux, n'ont pas ces mêmes règles. En Amérique du Sud, ils produisent des bovins dans des conditions complètement différentes et il faudrait importer ces bovins-là. En Chine, ils produisent des pommes.
Quand vous dites différentes, c'est-à-dire pas forcément en respectant le bien-être animal, pas forcément en respectant la qualité du produit final,
alors,
etc.
Alors je peux vous dire, ne respectant pas du tout le bien-être animal et avec des problèmes sanitaires avérés, vérifiés par un certain nombre de députés européens sérieux quand ils ont fait des missions dans ces pays-là. Des pommes en Chine produites avec des produits phyto qui sont interdits chez nous depuis 10 ans et ces produits arrivent sur les étals français. Donc les agriculteurs se disent mais pourquoi, jusqu'où va-t-on aller alors qu'on perd des agriculteurs? Est-ce qu'on peut conseiller à nos enfants d'être encore agriculteurs demain? La réponse est oui. Nous avons eu la chance d'avoir deux jeunes agriculteurs qui nous ont rejoints en juillet 2023. mais ça interroge pour la génération qui vient. Mmh.
Quels sont les enjeux de ces élections européennes et des 6 prochaines années à venir ?
Le premier enjeu des élections européennes, c'est de parler d'Europe et de ne pas parler de querelles de partis politiques, de référendums pour ou contre le gouvernement, ce n'est pas le sujet. Il faut élire à Bruxelles des députés qui soient des députés de dossier, pas des députés de plateau télé, qui s'écharpent sur les plateaux télé, et c'est un spectacle désolant, mais qui soient vraiment dans le cœur du réacteur de l'Union européenne, c'est-à-dire la décision, la construction de règlements, de lois, de directives, qui font ce que l'on devra mettre en œuvre demain. La guerre en Ukraine, le Covid, ont montré le caractère stratégique de l'alimentation. Poutine a fait de l'alimentation une arme. Si l'Europe désarme et produit moins, on sera plus dépendant de la Russie, entre autres. Si la Russie gagne en Ukraine, ils auront à leur main 30% du blé mondial. Mmh. C'est dire si c'est extrêmement important, parce que cette dépendance, elle nous soumettrait à cette vision de Vladimir Poutine.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, pour des questions de coûts et de production, on a abandonné la culture du blé, ou nos pays au profit peut-être de l'industrie ou des services. Ou est-ce qu'on n'a pas la capacité à produire ces 30% de blé qui nous manquerait finalement pour avoir une souveraineté alimentaire européenne ?
Alors, ce n'est pas nous qui l'importons. Ce sont des pays qui dépendent à 100% pour leur alimentation pour certains d'entre eux. Des pays d'Afrique notamment, ceux qui ont fait allégeance à Vladimir Poutine, à l'ONU, lors du vote à propos de la guerre. Non, la France et l'Europe ont une capacité de production, mais un certain nombre de décisions que l'Europe voulait prendre sur le Green Deal et sur Farm to Fork allaient nous conduire à produire moins. Or, la guerre, le Covid montre que quand on est dépendant, c'est dangereux. M. Macron l'a dit avant le confinement, confier notre alimentation et notre santé à autrui serait folie. Cela suppose de revoir notre souveraineté. C'est la même chose pour l'énergie. Quand on dépend du gaz russe, on voit ce que l'Allemagne est dépendante de la Russie et donc est obligée de se soumettre. Donc parler de souveraineté alimentaire, c'est être en capacité de produire le minimum nécessaire pour nourrir sa population, même en situation de crise. Ça n'exclut pas d'importer. On exporte, on importe. Mais par contre, il faut produire suffisamment pour ne pas être trop dépendant des autres continents. Et on parle de souveraineté aujourd'hui, on parlait de sécurité alimentaire auparavant, parce que l'enjeu devient très politique et c'est une évolution très forte. Un secteur qui est à la fois essentiel, le Covid l'a montré, c'est l'alimentation, mais qui est aussi stratégique, et là c'est Poutine qui l'a mis en lumière vraiment, et qui est vulnérable parce que le changement climatique fait qu'on peut perdre toutes les récoltes en une nuit en agriculture. Ça mérite une attention particulière. Et certainement aussi un budget plus important, parce que le budget de la PAC n'a fait que baisser depuis 50 ans, donc il faudrait repenser aussi l'accompagnement de la souveraineté alimentaire.
Dernière question, Christiane Lambert. Il y a des annonces qui ont été faites assez rapidement par le gouvernement. Alors ça, ce sont les annonces. Aujourd'hui, quelques mois après, vous êtes témoin que ces décisions, ces annonces sont mises en acte, ou est-ce que ça patine encore dans l'administration ?
Certaines des annonces ont été concrétisées, comme le versement des aides aux agriculteurs biologiques qui connaissent des difficultés, à ceux qui sont victimes de maladies hémorragiques épizootiques, notamment dans le sud-ouest de la France, aux viticulteurs pour l'accompagnement de ceux qui connaissent la mévente. Des décisions de simplification ont été prises à Paris et à Bruxelles. À Bruxelles, pour une meilleure mise en œuvre des conditionnalités de la politique agricole commune, notamment en tenant compte du climat et non pas d'un calendrier administratif déconnecté de nos réalités. Donc il y a des vraies annonces, mais il y a une loi qui est en débat en ce moment sur laquelle il y a beaucoup d'attentes. Et là, ce sont les députés et les sénateurs qui devront trouver les bons arbitrages.
Allez, on continue notre émission. On retrouve notre chronique hebdomadaire avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Aujourd'hui, c'est Pierre Collignon qui est avec
nous. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Voilà, on retrouve Pierre Collignon au cœur de ce portrait avec Christiane Lambert. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, vous avez souhaité revenir sur un sujet qui vous est cher, la jeunesse, souvent invoquée dans la politique comme dans l'économie, et qui peut servir parfois comme une forme de jeunisme. Alors vous pointez la difficulté de nos sociétés, on a à faire la place aux jeunes, c'est ça Pierre ?
Oui, d'abord, vous le savez, j'ai toujours tendance à me méfier des a priori. Et si vous regardez les chiffres, vous constaterez comme moi que la tranche d'âge des 15-24 ans reste, et de loin, la plus touchée en France, avec un taux de chômage de 17,4%. On peut donc légitimement se poser la question de savoir comment reprocher à nos enfants leur crainte de rentrer dans le monde du travail quand on regarde le peu d'empressement avec lequel, apparemment, en tout cas, on les y attend. Et cette question, souvent posée, en avait une autre, nous qui avons en charge dans nos entreprises, la formation de ceux qui vont nous succéder, quelle place sommes-nous prêts à leur accorder aujourd'hui?
Alors, voudriez-vous dire par là, Pierre, que plus notre monde crie qu'il aime la jeunesse, moins il le prouve dans ses actes?
Sans aller jusque-là, on peut simplement s'interroger sur la place que nous sommes prêts, nous les entrepreneurs en tout cas, à laisser leur chance aux plus jeunes. Et pourtant, chacun d'entre nous a eu sa première chance, vous aussi, Patrick. Difficile, souvent douloureuse, quelquefois, mais en tout cas toujours formatrice. Cette première chance nous a été donnée. Et c'était naturel, et c'est naturel. Et si vos employeurs avaient conscience de nos limites, nombreuses d'ailleurs, ils savaient aussi accueillir avec confiance et corriger avec bienveillance.
Alors pourquoi les choses ont-elles tant changé? Pourquoi serait-il plus difficile aujourd'hui, Pierre, de recruter un junior à un poste où, avec un peu de temps et d'attention, il pourrait fort bien remplir sa tâche?
En essayant de répondre à ces questions, on est tenté par quelques vraies fausses pistes. Vous savez, la conjoncture économique, le manque de maturité des jeunes, le faible niveau de leur formation qui conduit dans nos organisations à voir arriver des jeunes qui n'ont pas beaucoup de savoir-faire et quelquefois qui manquent de savoir-être. Mais si toutes ces réponses ne manquent pas de réalisme, objectivement, elles ne doivent pas nous cacher, la question de fond. Croit-on encore aujourd'hui que la jeunesse est une chance pour notre économie et un atout pour nos entreprises? Quels risques est-on prêt à prendre pour les accueillir, ces jeunes?
Alors, quelle réponse voudriez-vous apporter à cette interrogation?
J'ai envie, avec Saint Jean-Paul II, de parler de culture de vie. S'en écarter, nous dit-il, équivaut à se condamner soi-même au non-sens et au malheur, avec pour conséquence de pouvoir devenir aussi une menace pour l'existence d'autrui. Or, précisément, la jeunesse, c'est la vie, c'est l'avenir. Et même si elle n'est pas exactement ce que l'on voudrait qu'elle soit, ça fait des millénaires que ça dure, eh bien, il faut l'accueillir comme un don précieux, une fragile, mais une grande espérance. En donnant sa chance à un jeune, en l'aidant à se découvrir et à se dépasser, en contribuant à son éducation à travers son apprentissage de la réalité de l'entreprise, je crois qu'on lui fait le cadeau le plus précieux, la confiance et l'estime de soi. Et du même coup, on sert à l'entreprise qui assure ainsi ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui son développement durable.
Merci beaucoup, Pierre. Nous, on retrouve tout de suite Christiane Lambert pour faire un point justement sur la place de la question de l'engagement sur son parcours. Et puis, bien sûr, on fait aussi une pause musicale. On se retrouve tout de suite après cette petite virgule. Merci beaucoup, Pierre. À très bientôt. Au revoir.
RCF, Patrick Longchamp.
Christiane Lambert, c'est le moment de la pause musicale. Alors, je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous aimeriez entendre et surtout, pourquoi vous aimeriez entendre cette chanson?
Ah, alors, en musique classique, j'adore la Moldau de Smetana. C'est fabuleux, j'adore ce morceau. En musique plus contemporaine, j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Et en musique un petit peu, et en chanson un petit peu plus à texte, j'ai une vraie passion pour Georges Brassens.
Avec une en particulier?
Sa moustache, bah, les copains d'abord, forcément.
Les copains d'abord.
Et puis l'Auvergnat.
Et je vous propose qu'on écoute l'Auvergnat pour faire ce lien avec ce parcours que nous allons commencer tout de suite après Georges Brassens. L'Auvergnat sur RCF, vous êtes dans l'écho des solutions.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore.
Et c'était Georges Brassens sur RCF. On est avec Christiane Lambert dans son visage d'entrepreneur et on la retrouve pour son parcours tout de suite après ça.
L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
Voilà, il est temps donc de commencer ce parcours avec vous, Christiane Lambert. On a vu comment, avec passion, vous nous avez parlé de l'agriculture aujourd'hui, de ces sujets que vous portez. Vous êtes aujourd'hui, après avoir été présidente de la FNSEA, vous êtes présidente du COPA, hein, qui est le comité des organisations professionnelles agricoles qui défend l'agriculture à Bruxelles. Mais on ne vous résume pas qu'à ça. Vous êtes aussi mère de famille, vous êtes aussi agricultrice. Vous élevez des porcs dans le nord de l'Anjou. On va commencer par cette période justement d'Auvergne dans le Cantal, quand vous vous appeliez encore Christine Fouillé. Quel souvenir vous avez de cette période de l'enfance, déjà famille, dans une famille d'agriculteurs?
Ouais, bah une enfance heureuse avec des parents enthousiastes, des parents qui travaillaient beaucoup, mais le travail chez nous est une culture, on s'épanouit au travail et ça m'est toujours resté. Et mes parents ont été très travailleurs, très engagés, très ouverts vers l'extérieur, toujours envie de rendre service, parfois d'ailleurs au détriment du temps passé à la maison parce qu'ils s'engageaient beaucoup à l'extérieur. Non, j'ai grandi dans la ferme avec des responsabilités données dès mon plus jeune âge, que ce soit pour alimenter les veaux, les porceler, aller garder les vaches à l'extérieur.
C'était la combientième génération d'agriculteurs, vos parents ?
C'était la cinquième génération sur l'exploitation. Et papa travaillait à l'extérieur parce que c'était une petite ferme, donc il était inséminateur à la coop d'élevage. Maman travaillait beaucoup et c'est en la suivant partout, dans les prés, dans les champs, à l'étable et partout, que j'ai vraiment aimé ce métier-là, le contact avec les animaux. Et puis faire un métier concret, un métier de création, un métier des vivants, construire faire des clôtures, faire les foins, faucher, labourer, faire du béton, construire des crèches, etc., apprendre à souder. Bref, j'étais passionnée de tout ça et je...
Et donc la question s'est même pas posée
aussi. Non, la question s'est pas posée. Ma maman me disait que j'avais déclaré à l'âge de 8 ans que je voulais être agricultrice en triant les vaches avec elle, une vache très calme qui s'appelait Gitane, je m'en rappelle encore. Et donc j'ai fait le choix d'études agricoles, c'était un choix assumé, un bac agricole et puis un brevet technicien supérieur agricole. 17 ans, je voulais arrêter après le bac, puis les profs m'ont dit non, vous êtes trop jeune, il faut continuer. Et je remercierai jamais assez mes parents et mes profs qui m'ont poussé à continuer avec un BTS, parce que non seulement j'ai appris la gestion, le droit, tout ce qui est extrêmement utile ensuite, mais aussi, j'ai aussi rencontré des élèves de plus de 40 départements, puisque j'étais à l'Institut Saint-Dominique au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Et il y avait des jeunes de partout en France et j'ai donc voyagé grâce à mes études, moi qui n'avais jamais voyagé avec mes parents.
Qui sont vos héros à cette époque? C'est des héros de romans? Ce sont des personnes? Ce sont des... qui sont les héros du moment
Je lisais jamais de romans. Je n'ai pas beaucoup changé depuis. Non, mes héros, c'était plutôt... l'association sportive Saint-Étienne que je l'ai supportée avec les gens Vion, Platini, Larios, etc.
Eh oui, c'est vrai que vous êtes,
voilà,
vous êtes de la Loire.
C'était le rallye de Monte-Carlo et c'était l'équipe de handball dont j'ai été gardien de but pendant longtemps. Et puis c'était aussi des profs qui m'ont beaucoup inspiré. Mon prof de zoo, phyto, biologie, d'écologie. J'avais des cours d'écologie déjà à l'époque. Ouais. On parlait de biotopes, d'écosystèmes avec un professeur qui s'appelait Soubrier. On allait herboriser, c'est-à-dire qu'on partait découvrir les herbes folles et apprendre à reconnaître les adventices. Donc ça m'a mis tout de suite une vraie sensibilité sur ces sujets très concrets, mais aussi de respect.
Donc se lancer dans l'agriculture, c'est une évidence pour vous. L'engagement aussi, je suppose que c'est vos parents qui vous donnent ce goût de l'engagement. À 20 ans, vous commencez à militer au JA, c'est ça, aux jeunes agriculteurs?
Alors, c'est mes parents d'une part, parce qu'ils étaient engagés, maman beaucoup, au GVA, mouvement de vulgarisation agricole. Ma maman était très moderne, quand elle avait 18 ans, elle avait une Vespa et elle travaillait au Crédit Agricole. Donc c'était quelqu'un de très ouvert, elle jouait du piano, elle faisait de la couture, de la cuisine, elle savait tout faire. Donc j'ai eu beaucoup de chance de la côtoyer, elle m'a appris beaucoup. Mais c'est surtout pendant que j'étais en BTS deuxième année, un jeune agriculteur de Haute-Loire qui était vice-président du Centre National des Jeunes Agriculteurs, éleveur laitier en Haute-Loire, qui est venu intervenir et qui était brillant, parfait connaisseur de toute la géopolitique de l'agriculture. Et je me suis dit, waouh, si c'est ça le CNGI et que ça ouvre tous ses horizons, c'est vraiment bien. Et là, ça m'a donné envie. Donc, dès que j'ai eu la première invitation pour une réunion cantonale du centre cantonal de Massiac, je me suis rendue à cette réunion. Alors, on était 5, très, très peu nombreux. 4 garçons qui avaient près de 35 ans, donc allaient quitter les jeunes agriculteurs. Et le président départemental est venu. Il avait fait 200 kilomètres pour venir à notre réunion et on était 5. Et je me suis dit, pour que quelqu'un soit capable de s'engager comme ça, il faut un ressort d'engagement très fort. Et puis les deux personnes qui m'ont beaucoup inspirée dans le Cantal, c'était Michel Tessédou, qui était à l'époque responsable national, et Michel Faux, voisin de l'Aveyron, président national à l'époque. Beaucoup de charisme, une vraie éloquence, des vraies convictions et s'engager pour changer, c'est-à-dire s'engager sur un militantisme d'action. Ouais,
donc c'est l'aspect géopolitique, l'aspect compréhension, mise en perspective des enjeux de l'agriculture qui vous font militer. Ça aurait pu être une cause, c'était peut-être je vous pose la question, hein, ça aurait pu être en effet une cause à un moment donné sur un territoire, une injustice qui vous fait...
C'était les deux. C'était les deux parce que, bon, effectivement, avoir tout cet éclairage accessible de la part d'agriculteurs, c'était très intéressant. Mais c'est aussi un autre élément, et mon déclic, ça a été aussi de lutter contre une injustice. Laquelle ? Quand j'ai dit que je voulais être agricultrice à l'âge de 8 ans, tous mes copains d'école se sont moqués de moi, en tournant en dérision ce métier. Quand j'ai dit que je voulais être agricultrice, le banquier, à 19 ans, m'a dit « Mademoiselle, une jeune fille qui s'installe, célibataire à 18 ans, n'est pas un élément stable et sécurisant. » Et je me suis dit « Pourquoi ce métier est mal jugé? Pourquoi ne fait-on pas confiance aux jeunes ?» Et donc, mon envie, c'était militer pour montrer que c'était possible, améliorer les conditions d'installation. Et très vite, je me suis occupée d'installation, de formation, de financement, qui ont été le cœur de mes engagements. Et puis, le besoin d'être ensemble aussi. Quand on est étudiant, on est en collectif, on fait la fête, il y a un enthousiasme naturel parce qu'on est jeune, et puis quand on arrive dans une exploitation, dans un village où on est le seul jeune ou la seule jeune, il y a un vrai sentiment de solitude, de rupture, donc le besoin d'aller vers les autres, et puis le collectif crée encore plus d'enthousiasme, il y a une alimentation collective réciproque qui fait qu'on se sent capable de faire plein de choses. Et d'ailleurs, on a organisé des voyages en Savoie au salon de l'agriculture, on a organisé des opérations sourire pour vendre des produits locaux au bord des routes, aux touristes, créer le contact et parler positivement de l'agriculture.
Ça, c'était au début des années 80. La crise agricole était la même. On a l'impression que l'agriculture a toujours été plus ou moins en crise. Étaient les mêmes, les aspirations étaient les mêmes, ou il y avait...
L'impression, c'est que les médias parlent de l'agriculture que quand il y a des crises. Quand ça va bien, ça les intéresse moins aussi. Certains médias. Et moi, je me suis installée en 1980. Les 5 premières années, 3 années de sécheresse. Ouais. Et en 1984, l'arrivée des quotas laitiers qui a figé les volumes de production dont on disposait. Donc ça n'a jamais été facile, il ne faut pas le penser. Mais il n'y avait pas le regard extérieur et le jugement extérieur comme il peut y avoir aujourd'hui. Même si, quand mes parents ont voulu faire une porcherie, la première dans le village, il y a eu des oppositions déjà dans les années 75 pour la création d'une porcherie imaginée.
Alors je dois vous avouer que j'ai passé mes vacances à côté d'une porcherie dans le Lot, dans l'enfance. On n'est pas resté jusqu'au bout du séjour. C'était un peu pénible. Mais ceci étant,
ça a beaucoup changé. Voilà, il faut reconnaître aujourd'hui. Et vous savez, c'est aussi par rapport aux critiques que quand on a construit les bâtiments d'élevage, mon mari et moi, on s'est toujours attaché à ce que ce soit nickel chrome.
Et que ça ne vienne pas perturber l'environnement.
Exactement. On habite en face de l'élevage, donc il ne faut pas qu'on soit gêné nous-mêmes.
C'est ça.
On a fait des clôtures, on a planté une pelouse, on a installé une pelouse, on a planté des arbres fruitiers, on a clôturé aussi parce que nos enfants allaient sur la route.
Ah, bien sûr.
Moi, je me suis toujours attachée à ce que l'élevage chez nous soit aux normes, fleuri et rentable. C'est un triptyque indispensable, encore plus quand on est responsable professionnel.
Vous rencontrez votre mari au JA, justement, parce que entre l'Anjou, entre l'Anjou et le Cantal, à moins qu'il vienne camper dans le coin...
C'est 580 km entre son village et le mien. Et en fait, Thierry a fait ses études dans un établissement proche de Massiac, au CRP Oblel, Centre Régional de Promotion et d'Orientation Oblel. Et il cherchait un stage, il était en stage dans une exploitation voisine, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Donc, dans les années 80, milieu des années 80, vous quittez le Cantal pour suivre votre mari en Anjou. C'est un déracinement à ce moment-là, pour vous ?
Oui, ça a été...
Ça a été compliqué, la décision à prendre à ce moment-là ?
Oui, ça a été assez difficile de prendre cette décision-là. Mais il y avait plusieurs raisons qui nous ont poussés à le faire. Bon, déjà la ferme de son père qui était à reprendre, et lui est passionné de production porcine. Le foncier qui était hyper cher dans le Cantal, et donc lui qui est d'Anjou disait « mais on ne peut pas mettre un tel argent pour acheter du foncier, il n'y a pas de rentabilité ». Et puis d'autres éléments. Mais c'est vrai que j'ai pleuré souvent, j'avais mal au cœur quand je quittais le Cantal. J'avais fait beaucoup de choses déjà. Et c'était un déracinement. Mais après, quand on va quelque part et qu'on a son mari, puis ses enfants, il y a une nouvelle vie professionnelle qui commence. La scolarisation des enfants fait aussi qu'il y a une intégration qui est assez facilitée.
Vous parlez, vous parliez à un moment donné du banquier qui dit, qui vous dit, quand on est une jeune femme et qu'on veut devenir agricultrice, on n'est pas sécure. La place de la femme dans l'agriculture, on n'en parle pas si souvent que ça. Les agricultrices sont très présentes. Je pense pas qu'elle y ait. Il y a peut-être des questions aujourd'hui, peut-être sur l'égalité des genres dans l'agriculture, mais c'est plus compliqué. C'est toujours plus compliqué souvent pour des femmes. C'est un peu cliché la question que je pose, mais la place de la femme dans l'agriculture, c'est complexe aujourd'hui. Alors, quels sont les sujets à défendre ?
La situation et la reconnaissance des agricultrices s'est améliorée. Ma maman écrivait sans profession sur tous les documents administratifs. Depuis 1988, on peut avoir un statut d'agricultrice, égalité avec son mari quand on est marié, quand avant c'était pas possible. Et puis peu à peu, via les entreprises agricoles à responsabilité, via les GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun, on arrive à avoir une égalité de droits. Aujourd'hui, on a 25% de femmes qui sont chefs d'exploitation. Mais elles sont assez peu visibles encore dans les organisations agricoles. Donc c'est aussi un travail important que d'accueillir des femmes dans le syndicalisme, dans les chambres d'agriculture, dans les banques, les coopératives. Dans le syndicalisme, il y a une vice-présidence féminine statutaire obligatoire. C'est-à-dire que ce soit chez les jeunes agriculteurs ou à la FNSEA, il faut
une femme
vice-présidente. Donc ça, on pousse un peu plus parfois pour la trouver.
Et bon, quand la femme est présidente comme vous, il faut un vice-président ? On équilibre de
non,
ce que...
Non, il y a toujours une vice-présidente qui est la présidente de la commission féminine de la FNSEA, commission agricultrice de la FNSEA, elle s'appelle comme ça maintenant. Et moi, j'étais présidente départementale et je suis arrivée par ma responsabilité territoriale et pas parce que j'étais responsable des agricultrices. Alors, c'est compliqué parce que les places sont chères au niveau national, donc évidemment, ça joue des coups d'un peu. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des gens qui étaient favorables à mon arrivée à la présidence, d'autres qui étaient défavorables. C'est ainsi. Après, il y a un vote et puis après, il faut travailler.
Et après, il faut travailler.
Et faire sa place et être reconnu. Donc,
vous grévissez à peu près tous les échelons du syndicalisme. On va y revenir parce que c'est quand même une part importante et c'est comme ça que l'on vous connaît aussi, Christiane Lambert. Mais comment vous équilibrez tout ? Je pose la question à tous mes invités. Comment on équilibre sa vie de femme, de mère de famille, sa vie d'agricultrice, même si on est très aidé, et je pense que votre mari tient une place particulière aussi dans ses équilibres, et cette vie d'engagement, parce que l'engagement, ben, on le voit, là on est dans votre bureau, demain vous êtes à Bruxelles. Vous reviendrez à Paris, puis vous retournerez vous occuper de votre famille et de la ferme en Anjou, avec peut-être des dossiers sous le bras. Comment est-ce que vous équilibrez tout ça ? Comment vous arrivez à tout tenir sans arriver à l'épuisement ?
Bon, d'abord, il faut que les convictions soient solides pour tenir, parce que c'est beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup de stress, parce que les négociations sont parfois difficiles, le contexte l'est aussi. Évidemment, c'est un engagement partagé, parce que si Thierry n'avait pas été là et en accord avec ma prise de responsabilité, ça n'aurait pas été du tout possible. On s'est organisé. Thierry m'a dit, quand j'ai été sollicitée pour être présidente du CNJA, que tu sois numéro 1 ou numéro 2, tu travailleras autant, donc vas-y et on s'organise. Et on a donc eu la chance que le service de remplacement qui met à disposition des agents pour travailler à notre place dans l'exploitation me propose d'embaucher une nounou, puisque Thibault avait 1 an et Guillaume avait 3 ans. Lors de mes premières responsabilités nationales. Alors, je me suis engagée sur la base de convictions. J'ai beaucoup travaillé pour faire changer les choses et je les ai fait changer et j'en suis contente. Pas autant que j'aurais voulu parce qu'on peut pas tout faire. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des sacrifices personnels.
Regrets ? Il y a des regrets aujourd'hui sur...
Non, il n'y a pas de regrets parce que on a fait au mieux. Bien sûr, le temps passé avec les enfants n'a pas été aussi important que ça aurait dû dans une vie différente. Mais l'enthousiasme qu'on a porté tous les deux, Thierry et moi, a rejailli sur les enfants qui sont aujourd'hui eux aussi bosseurs avec des études Bac plus 6 tous les trois et qui ont des métiers dans lesquels ils s'épanouissent mais où ils s'investissent aussi beaucoup, je le mesure. Donc finalement, le mimétisme a opéré. Ils reproduisent aujourd'hui, jeunes adultes, ce que nous avons fait nous. Mais vous savez, quand on est mère de famille, c'est ce qui nous préoccupe le plus, c'est que l'équilibre familial soit tenu. Je suis très attachée à la famille pour diverses raisons et par conviction forte. Et j'ai toujours veillé à consacrer beaucoup de temps aux enfants au détriment du temps personnel qui n'existait plus. C'est-à-dire, c'était plus de sport et presque plus de loisirs. Mais finalement, quand on passait des bons moments en famille, ça valait...
Ça valait toutes les difficultés. Exactement. Toutes les difficultés. Vous avez été à la tête du plus gros syndicat agricole de France. Vous faites finalement... vous avez une action politique forte, même si vous n'adhérez pas à un parti politique à proprement parler, que la FNSEA n'en est pas un. Comment est-ce qu'on se préserve de ces coups qu'on peut prendre? Et avec l'arrivée des réseaux sociaux et des médias en ligne et des médias en boucle, ça doit être parfois difficile, lourd. Comment on se prémunit de ça? Comment on s'en préserve?
C'est très difficile et ça fait mal et c'est un profond sentiment d'injustice. Parce que même ceux qui ne connaissent pas critiquent. Et vous avez raison de dire que les réseaux sociaux ont amplifié la radicalité des positions, les critiques, les caricatures, les positions atrophiées ou raccourcies. Ce qui permet de tenir debout, ce sont les convictions. C'est la volonté d'être utile, de porter une cause juste, d'être rationnel et pragmatique. Évidemment que tout le monde voudrait un monde sans guerre, un monde sans mal-être, un monde sans chimie, mais la réalité, c'est qu'on mange des médicaments quand on est malade, on soigne nos plantes quand elles sont malades, on soigne nos animaux quand ils sont malades, et ça durera autant que le monde sera monde. Il y a différentes façons de les soigner. Aujourd'hui, les recherches vont sur des produits moins nocifs, moins rémanents, qui ont moins de problèmes vis-à-vis de l'environnement, mais il faut quand même soigner les plantes. Quand un blé est touché par la fusariose, qui est une maladie du blé, il génère des mycotoxines qui rendent malades les humains et les animaux. Donc il faut bien soigner les blés, parce que ceux qui le mangent sinon sont malades ensuite. Mais voilà, c'est aussi, là c'est vraiment la solidité, l'accompagnement des équipes, hein, des autres agriculteurs, des membres du bureau qui nous soutiennent, de toute l'équipe administrative, le directeur, et puis de la famille aussi qui nous voit arriver en mille morceaux le week-end.
Ouais, vous ne laissez pas ça à la porte quand
non.
même
non. Alors ça c'est impossible. Alors ça, laisser les dossiers le jeudi soir ou le vendredi soir au bureau et arriver à la maison optimiste et tout, non. Moi,
mettre ses bottes et aller voir ses portes, c'est pas possible.
Et ça m'affecte beaucoup à l'intérieur. Mais par contre, oui, aller bosser sur la ferme, aller travailler sur la ferme, parcourir les prés, les champs et travailler avec les animaux, ça fait un bien fou.
Ça fait un bien fou.
Et puis, arriver à la maison en disant « Maman, j'ai mal au ventre, maman, j'ai envie de faire pipi », voilà, la famille
d'abord.
On est
vite rappelé à la réalité.
On est rappelé à la réalité, tout à fait.
Vous me disiez juste au début de cette émission que vous souhaitiez dire, et on l'a entendu, faire un hymne à l'engagement, parce que pour vous, c'est hyper important. Aujourd'hui, l'engagement dans le monde agricole, on sent qu'il est là, on sent que le monde agricole est plutôt un monde engagé, pas forcément dans les autres syndicats, dans les autres secteurs, dans les autres activités. Quelles sont pour vous les joies de l'engagement, la force de l'engagement? Pourquoi? Et que voudriez-vous dire à quelqu'un qui hésite à s'engager?
La vie repliée sur soi, c'est une vie triste. La vie à deux, déjà, c'est bien, mais la vie que à deux longtemps, ça peut aussi générer de l'ennui, de la lassitude. Et puis, le groupe est porteur. Les talents des uns impressionnent, donnent envie de s'engager. À tous, on fait beaucoup plus de choses. Et qu'est-ce que c'est intéressant quand on arrive à faire boule de neige, à créer l'enthousiasme et à partir tous vers un projet, quel qu'il soit, un projet de développement local ou un engagement plus national. Et puis des réalisations concrètes. En tant que présidente de la FNSEA, je m'étais fixée comme objectif d'améliorer le revenu des agriculteurs en travaillant sur les lois alimentation numéro 1, numéro 2, puis la troisième, la loi d'Escrozaille, en obtenant des modifications pour une amélioration des retraites, en mettant en place le contrat de solution pour la protection des plantes, justement pour essayer d'évoluer vers moins de chimie. Ce sont des réalisations très concrètes que j'ai faites quand en 2019 j'ai porté en tant que présidente de la FNSEA une orientation pour les agriculteurs engagés contre le climat. C'était quand même pertinent, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'intuition, sentir vers quelle direction aller, mais après avoir la force d'entraînement pour entraîner tout le monde. Et quelle est la grande satisfaction d'arriver à le faire ensuite quand les gens viennent aux réunions, adhèrent en disant c'est la bonne direction et on a bien fait, ça c'est agréable. Mais il y a des embûches, il ne faut pas rêver, il faut convaincre les décideurs. Il faut convaincre les adversaires politiques, syndicaux, qui ne sont pas d'accord, qui mettent des bâtons dans les roues. les environnementalistes qui sont pas tendres avec les agriculteurs, parfois à tort. J'ai reçu tous les mouvements environnementalistes quand j'étais présidente de la FNSEA. Avec certains, il est facile de discuter. Avec d'autres, c'est un mur et c'est impossible. Mmh. Et ça, c'est un vrai regret, parce qu'il y aurait beaucoup plus de choses qu'on pourrait faire mieux ensemble s'il y avait moins de tabous et moins de postures.
Absolument. Et on arrive au terme de cet échange. Je termine par cette question. Mais je vois à votre cou une petite croix avec un cœur et j'ai envie de vous poser la question. Et Dieu dans tout ça, Christiane Lambert?
Bon, il est le lieu de ressourcement, l'ancrage de conviction et surtout le besoin d'être utile aux autres, c'est-à-dire une vie tout sauf égoïste. J'ai été élevée comme ça, rendre service, être utile. C'est la parabole des talents. J'ai eu la chance d'être élevée dans une famille croyante, de faire des études, d'avoir des parents éloquents qui m'ont transmis cette envie de partager et ne pas rester replié, de travailler que pour soi. Les enfants me disaient parfois, mais maman, t'es un vrai Saint-Bernard, dès que quelqu'un te demande un truc, tu voles. Bah oui. Appelle, on m'explique un problème, je suis déjà en train de chercher la solution. Et c'est tellement nécessaire. Notre société voit trop en ce moment de gens qui se replient ou qui ne pensent qu'à eux. Voilà. Et on a un devoir de collectif. Enfin, en tout cas, moi, je me le suis... C'est même pas imposé, c'est venu naturellement. Je jouais handball, c'était collectif. J'étais déléguée de classe pour porter la parole de tout le monde. Et ces talents de leader, j'ai eu envie de les poursuivre. Et j'ai été portée par les autres pour le faire, parce qu'on est élu quand on est président des JA, de la FNSEA.
Et on arrive à avoir encore un temps, alors vous voyagez beaucoup, mais un temps de vie intérieure, un temps de prière. Est-ce que vous arrivez à prendre ces temps-là, au-delà de la conviction, de l'éducation? Est-ce qu'il y a une relation un peu spécifique que vous arrivez à trouver avec Dieu?
Alors, c'est vrai que j'ai plus une foi active qu'une foi contemplative. Mais on peut prier n'importe quel
moment. Vous êtes dans la contemplation, comme disent certains, c'est ça?
Oui, mais on peut prier n'importe quand, dans ma voiture, quand je rentre à la maison, le soir, avant de m'endormir. Et puis, je partage aussi ça avec certains de mes enfants qui m'envoient des musiques de méditation, des homélies du pape de temps en temps, quand le texte les touche. Et ça, c'est un partage qui est vachement intéressant aussi. Mais c'est un ressourcement qui fait du bien. Mais la force, elle vient de là aussi. Ouais. Et parfois, on en tremble, parfois, on en pleure, parce que c'est douloureux parfois.
Bien sûr.
Mais c'est un ressourcement qui fait tellement de bien. Et puis, participer à la messe le dimanche et entendre une belle homélie, ça requinque aussi.
Ça requinque aussi. On parlait des coups qu'on pouvait recevoir et la place du pardon dans tout ça. On arrive à... Parce que quand on a une conviction forte, qu'on a été construit dans la foi catholique, la place du pardon passe, est essentielle. En tout cas, elle est présente. On arrive à dire... À poser
ça,
des... c'est
ça,
plus compliqué.
Ça, c'est difficile. J'ai pas toujours tendu l'autre joue.
Vous avez pas toujours tendu
non,
l'autre joue.
Non, j'ai pas toujours tendu l'autre joue parce que parfois les mots sont violents. Je me rappelle, arrivant au salon de l'agriculture, un adversaire syndical qui approche à toute allure pour m'embrasser. Je dis non. Ce que tu as dit hier à la radio contre moi fait qu'aujourd'hui je peux pas. Donc voilà. Alors après, il faut respecter. C'est moi, ça. J'ai toujours écouté les gens qui étaient en opposition à mes idées, parce que je me dis que derrière leur expression, il y a peut-être quelque chose qu'il faut. Ils l'ont peut-être mal dit, mais il faut peut-être écouter et comprendre. Et tendanciellement, parfois, certaines de leurs idées méritaient d'être écoutées.
L'opposition, oui. La méchanceté, non. En gros, c'est ça.
Oui, et l'opposition dans le sens
constructif,
controverse, avis différent. Ce qu'on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est le contraire de l'argumentation et de la controverse. C'est je choisis mes followers, je bloque ceux que je n'aime pas, je ne garde que des gens qui pensent comme moi, et ça c'est pas bon non plus, parce que chacun dans son couloir de nage, et donc les confrontations sont violentes. Échanger, discuter, à Bruxelles hier, attaquer le matin, j'ai réussi à discuter l'après-midi avec un des opposants très virulents, et lui expliquer, c'était difficile, mais j'arrive à le faire.
On arrive au terme de cette émission, Christiane Lambert, votre invitée des 7 minutes pour changer le monde, et on a la grande joie de l'accueillir tout de suite après la petite virgule, c'est Michel Barnier. Pourquoi Michel Barnier? Parce que comme ça, je le vois mal dans ma rubrique, mais je sais qu'il vous a apporté beaucoup et que pour vous, il a changé la donne.
Quand j'étais présidente des jeunes agriculteurs, Michel Barnier m'a fait appel pour parler d'Europe. J'ai toujours été une Européenne convaincue, la paix, la construction, le développement permis par la construction européenne. Et avec Michel Barnier, nous avions fait plusieurs réunions et j'avais découvert quelqu'un d'une profonde conviction et qui a beaucoup œuvré avec abnégation et modestie pour l'esprit européen. Il a été ministre, il a été député, il a été commissaire européen, et puis il a été le négociateur du Brexit, ce qui a été un chemin de croix pour lui. Mais il a été hyper respectueux du choix fait à ce moment-là. J'ai beaucoup de respect pour Michel Barnier.
Eh bien, on retrouve tout de suite Michel Barnier juste après cette petite virgule dans l'écho des solutions.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, on termine avec Michel Barnier. Michel Barnier qui a été président du département de la Savoie, ministre, commissaire européen, député européen. Il a été délégué au Brexit. Il est avec nous pour parler, Christiane Lambert. Bonjour Michel Barnier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer à la fois notre invité, Christiane Lambert, et puis aussi pour parler un petit peu d'Europe, hein, puisque nous sommes à quelques jours après la grande fête de l'Europe, traditionnellement fêtée le 9 mai, et année particulière, puisque ce seront les élections européennes dans un mois quasiment tout pile. Quel regard vous avez sur Christiane Lambert, Michel Barnier? Elle nous disait juste avant que c'était vous qui lui aviez donné le goût de l'Europe quand elle était encore jeune présidente des JA, c'est-à-dire les jeunes agriculteurs.
Évidemment, je suis très touché par son invitation et heureux de parler d'elle et parler de son action. Je ne crois pas que je lui ai donné le goût de l'Europe parce qu'elle l'avait déjà, et comme l'agricultrice qu'elle est depuis longtemps, depuis le Cantal jusqu'au Maine et Loire, elle a mesuré l'importance de la dimension européenne. Ce qui est vrai, c'est qu'en 1995-96, je suis alors ministre des Affaires européennes. C'est un poste important, mais aussi un peu ingrat. Je choisis d'aller parler de l'Europe avec les Français. Je monte des comités régionaux pour vérifier que ce dialogue est sincère, et je propose un comité de suivi, d'évaluation, composé de 3 personnalités. La présidente des JA, les jeunes agriculteurs, Christiane Lambert, qui accepte d'être une de ces 3 témoins, acteurs, surveillants de ce dialogue national pour l'Europe. Voilà comment nous nous sommes rencontrés.
Alors justement, on parle d'Europe. Comment est né votre goût pour l'Europe, Michel Barnier? Ce sont vos mandats qui vous ont amené à vous intéresser à la question européenne, ou il y avait déjà quand même une sensibilité européenne chez les Barnier et chez Michel Barnier avant?
Mon engagement, il remonte à plus loin, à l'époque où j'étais au lycée Jean Moulin d'Albertville, c'est la classe de 3e, où à l'époque je suis très frappé, passionné par l'histoire, déjà plein d'admiration pour un grand personnage qui n'était pas un politicien, qui était même le contraire d'un politicien, le général de Gaulle, qui était président de la République. Je suis très frappé par une poignée de main. J'ai cette photo dans mon bureau, je vous le promets, depuis que j'ai 15 ans. La photo du général de Gaulle qui accueille le chancelier allemand Konrad Adenauer. Et cette photo est en couleur, est juste au-dessus de moi quand je vous parle, et il y a une sorte de respect infini entre ces deux géants, l'ancien chef de la France libre, de la Résistance, et puis le chancelier fédéral allemand, qui disent « on va se réconcilier ». Il y avait des raisons de se réconcilier. D'ailleurs, Victor Hugo qui parlait des guerres entre Européens comme de véritables guerres civiles, mais on ne va pas seulement se réconcilier pour le passé, on va construire l'Europe de demain, et c'est ce qu'ils font. Et je suis devenu gaulliste et européen, patriote et européen à ce moment-là.
Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que, je vais parodier Erasme, qui a été parodié par Simone de Beauvoir, mais est-ce qu'on est européen ou est-ce qu'on le devient aujourd'hui?
Les deux à la fois, selon l'endroit où l'on est. On est dans un pays européen où on ne l'est pas, mais il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous et qui deviennent européens, et puis il faut le devenir en regardant le monde tel qu'il est autour de nous, tel qu'il vient, dangereux, instable, injuste, fragile avec le changement climatique qui touche tant d'agriculteurs et tant de territoires. Et si vous regardez ce monde tel qu'il est, si on n'est pas ensemble, on est foutu. Mmh. Si on n'est pas ensemble, on est dominé. Quelle que soit la passion que j'ai d'être patriote et d'être français, quelle que soit la force de notre pays, qui a beaucoup de qualité et de crédibilité dans le monde, nous n'avons plus la taille d'un État-continent, nous ne sommes plus à la table durablement des pays qui dirigent ou qui font l'ordre ou le désordre du monde. Oui. Si on n'est pas ensemble, on est dominé. Ouais. Les Américains ou les Chinois.
Alors, ça je l'entends, mais quand je disais est-ce qu'on est européen ou est-ce qu'on le devient, je parle de cette jeune génération. Avant de nous rencontrer, Michel Barnier, je suis allé voir quelques jeunes, j'aurais demandé s'ils avaient ce sentiment d'être européen. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que l'identité européenne des citoyens vivant sur le territoire européen n'est pas chose évidente aujourd'hui. On ne se définit pas comme européen, on se définit encore au niveau de son État-nation.
Heureusement qu'on garde notre identité nationale. nos différences, notre tradition, notre culture, notre langue. On ne se ressemble pas tous, c'est ça la difficulté de l'Europe, peut-être la difficulté de la faire comprendre, parce que c'est compliqué. Chacun des 27 pays de l'Union, c'est un peuple, un État, une nation. C'est pas, nous ne sommes pas une nation européenne, on ne veut pas d'ailleurs être une nation européenne. Gérald de Gaulle, dont je parlais tout à l'heure, il disait un jour dans un discours, il ne faut pas que l'Europe broie les peuples comme dans une purée de marrons. On ne veut pas être dans une purée de marrons, on veut garder notre identité nationale. Et on y ajoute cette dimension supplémentaire qui, effectivement, est difficile à mesurer. Pour beaucoup de jeunes, la paix, la démocratie, l'euro, la liberté de circulation, c'est des choses acquises. Et pourtant, ça, c'est la réalité du projet européen. Il y a 30 ou 40 ans, ça n'existait pas. On n'avait pas une monnaie commune et unique. On n'avait pas cette liberté de circulation. Alors, il faut y ajouter, en effet, de nouvelles preuves. Je pense qu'il faut refaire la preuve de l'Europe tous les jours, à partir des problèmes, des angoisses, des questions d'aujourd'hui, avec les mots d'aujourd'hui.
Le président Macron se fait un peu le chantre en ce moment d'une chronique, d'une mort annoncée de l'Europe. Vous êtes sur la même ligne, Michel Barnier. Vous avez ce sentiment que l'Europe est en danger aujourd'hui ?
Je ne pense pas qu'il faille tenir un discours anxiogène. Je vois bien l'intérêt du président de la République de tenir ce discours à la veille des élections pour dramatiser. Nous sommes un projet qui mérite d'être défendu, qui est toujours fragile. Je disais à l'instant, il faut refaire la preuve de l'Europe vis-à-vis des citoyens et avec les citoyens. Pour autant, je pense que ce projet est solide, notamment grâce à la coopération franco-allemande et avec d'autres grands pays ou plus petits qui comptent. La démocratie et la paix, qui sont les deux promesses initiales de l'Europe depuis 1950, cette promesse a été respectée, donc il faut être vigilant pour qu'elle le reste.
Quelles sont, Michel Barnier, les raisons d'espérer encore dans l'Europe ? Je dis encore, mais moi je suis foncièrement européen et j'aime cette Europe, et parfois j'ai le sentiment que, on l'entend au travers du discours du président de la République, mais qu'on nous présente toujours l'Europe comme quelque chose de lointain, je pense à nous les citoyens qui allons être électeurs dans un mois. Je pense au regard qu'on peut porter sur la technicité, la technocratie européenne. Et parfois, on a un sentiment, parfois peut-être, de désespérance vis-à-vis de cette structure européenne. Quelles sont les raisons d'espérer en l'Europe encore aujourd'hui et d'aller voter le 9 juin prochain ?
Christian Lambert, quelques jours, publiait sur Twitter une explication de comment ça fonctionne, quelles sont les institutions. Ce travail de pédagogie, il faut le refaire, il faut le faire à l'école. Après, quelles sont les raisons d'espérer ? On tire des leçons. Quand vous regardez les 15 crises, les 15 années, dernières années, où on a vécu beaucoup de crises, chaque fois, on s'en est sorti. Ces crises étaient toutes dangereuses pour l'Europe. Aucune ne nous a détruits, ni la crise financière, ni le Brexit, ni la crise des migrations, ni le Covid, ni les guerres, ni le changement climatique. On a plutôt une capacité plus grande de répondre ensemble. Ça, c'est la raison d'espérer pour résister à cette crise ou pour en tirer les leçons. Comment on résiste si on n'est pas ensemble au niveau au moins de notre...
Merci beaucoup, Michel Barnier, pour cet échange. Nous, on clôt cette émission tout de suite après ça avec Christiane Lambert. On va conclure avec elle ce visage d'entrepreneur qui lui est consacré. Merci beaucoup, Michel Barnier, de votre disponibilité. Et bien évidemment, j'invite tous nos auditeurs à se rendre aux urnes le mois prochain pour les élections des députés européens. Merci beaucoup, Michel Barnier. Au revoir.
Merci à vous.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Merci beaucoup, Christiane Lambert, d'avoir été avec nous pendant 58 minutes dans ce visage d'entrepreneur du monde agricole, engagé dans le monde agricole. La même question qu'au début, mais à la fin. Comment vous sentez-vous à l'issue de cet échange, Christiane Lambert ?
Impressionnée, émue. La relation avec vous a été très fluide et très agréable. Merci, on sent beaucoup de bienveillance.
Merci beaucoup, Christiane Lambert. Ben, ça y est, c'est moi qui suis ému et touché. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de l'Écho des Solutions. Vous nous retrouvez tous les vendredis soirs à 17h sur la plateforme rcf.fr et tous les samedis à 14h en FM et en DAB+, sur les 64 radios locales de notre réseau dont on est si fier, et en podcast, bien évidemment, sur toutes les plateformes que vous préférez. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt. Au revoir.